très heureuse de vous accueillir pour cette soirée vibratoire toute particulière. Et je suis vraiment ravie d'avoir ma communauté et puis d'accueillir plein de nouvelles personnes, plein de belles âmes qui probablement font partie de la communauté d'âmes. Donc, nous sommes ravis de co-créer cette soirée à deux cœurs. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et c'est avec une grande joie que je vais laisser Anne se présenter à ceux et celles qui ne la connaissent pas encore. Voilà, je te laisse la parole.
Alors, ben du coup, je m'appelle Anne de Tilleux. Je suis comme Sandrine, en fait, canal depuis de nombreuses années. Ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis canal. Et du coup, dans ma pratique, j'accompagne soit en individuel, soit aussi en collectif, en conférence, en séminaire, etc. Les personnes en intégrant forcément la dimension ben, de l'être, de l'âme. Et puis, j'accompagne aussi les personnes dans un chemin d'éveil, puisque j'ai eu la chance de connaître ça il y a plus de 12 ans maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'il y avait cette idée de nos guides mutuels avaient soufflé dans l'oreillette le fait qu'on retravaille ensemble, parce qu'on a déjà travaillé ensemble il y a quelques années. Et en l'occurrence, le thème a été donné par une des participantes de ce soir. Il s'est invité comme une évidence. On savait que c'était ce thème-là qui aurait lieu ce soir. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à regarder le site internet annedetilleux.com. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles gratuitement, beaucoup de méditations guidées en canalisation, beaucoup d'autres choses. Donc, n'hésitez surtout pas. Et dès demain, il y aura aussi du coup le texte qui a été reçu en canalisation il y a quelques jours pour cette soirée et avec l'audio correspondant. Voilà. Donc, démarrons maintenant. C'est une
Voilà.
grande première pour moi.
Merci beaucoup, Anne. Donc, je vais vous inviter à participer à un moment de centrage de manière à se rendre totalement disponible et complètement ouverte pour ce qui va s'inviter. Il y a des choses qui ont été donc déjà reçues, comme Anne vient de le dire, il y a eu un texte qui a été reçu en canal. Et pour le reste, vous le savez, nous recevons en guidance permanente. Donc, nous ne savons pas encore exactement comment va se dérouler la soirée, mis à part ce texte. Voilà. Donc, pour que chacun, chacune puisse s'installer dans la présence, je vais vous inviter à poser vos pieds bien à plat par terre, ou alors, si vous êtes assis en lotus ou assise en lotus, simplement, voilà, prendre conscience de vos appuis au niveau du bassin. Et puis, laissez vos paupières se fermer. On va fermer le rideau sur le théâtre du monde pour tout doucement commencer à rentrer à l'intérieur. Et rentrer à l'intérieur en écoutant ce qui est là au niveau du corps physique. Comment est-ce que je me sens dans mon corps à l'instant même? Quels sont les endroits confortables? Et peut-être que dans ces endroits confortables, je peux donner encore plus de confort. Ne pas hésiter à bouger, à respirer pour aller chercher ou offrir encore un peu plus de confort. Puis, quels sont les endroits du corps qui peuvent être, au contraire, inconfortables, peut-être un peu étriqués, peut-être des endroits où cela tiraille, où on peut percevoir une lourdeur. Et simplement observer cela, et si cela est juste, respirer dedans. Respirez avec. Et j'observe simplement ces zones confortables, bien vivantes, bien fluides, et puis ces zones plus inconfortables. Et puis les pieds bien à plat au sol. Je vais simplement rentrer dans la conscience de ma verticalité. À l'inspiration, naturellement, mon corps va monter légèrement vers le haut. Je vais rejoindre le chakra couronne et à l'expiration, je descends dans mon chakra racine. Je m'installe peu à peu dans cette verticalité entre le haut et le bas. Les épaules sont relâchées. La cage thoracique peut s'ouvrir légèrement. On va chercher, sans forcer, c'est juste une invitation à créer un peu plus d'espace, un peu plus de place. Un peu plus de place au niveau du diaphragme. Un peu plus de place au niveau du ventre, du bas-ventre, du bassin. Imaginez le bassin comme une grosse bassine. Et je vais pouvoir me déposer dedans. Et je vous invite, je nous invite à bouger légèrement ce bassin, sentir les appuis, les ischions, les fesses, sentir que cela peut bouger de droite à gauche, d'avant en arrière. Et à partir du bassin, descendre la conscience dans les cuisses, les mollets, les tibias, les chevilles, pour arriver aux pieds. Et je vais soulever l'avant de mes pieds pour enfoncer les talons dans le sol. Je pousse mes talons dans le sol comme si je voulais laisser la marque, imprimer la marque dans le sol de mes talons et je relâche et j'écoute ce que ça fait. Et on va le refaire sur une grosse expiration. Je prends une grande inspiration et à l'expiration, je pousse mes talons dans le sol. Et je peux souffler. Laissez la bouche s'ouvrir et souffler, envoyer dans les talons ce souffle qui va nous permettre de descendre dans l'ancrage relâché. Et puis, à la prochaine expiration, on va pousser les talons et le milieu du pied dans le sol. Je vais chercher une grande inspiration. J'inspire avec mon nez. Je sens que je remonte. Et à l'expiration, je descends l'énergie dans les talons. Je pousse avec les talons. Je pousse avec le milieu de mon pied. Comme si je cherchais à m'enfoncer dans le sol. Je relâche. J'écoute de nouveau ce que ça change en moi. J'accueille les soupirs, les bâillements, s'il y a besoin de s'étirer, s'il y a besoin de frotter des espaces du corps. Ah, voilà, on va créer de l'espace, on se rend disponible à sa présence. Et je vous invite à une troisième grande inspiration. On inspire avec le nez, on sent qu'on remonte et à l'expiration, on descend, on pousse cette fois-ci talons. Milieu du pied, avant du pied, on va chercher à pousser aussi avec les orteils. On enfonce tout le pied bien à plat, on ouvre les orteils. Imaginez vos orteils qui se déploient, qui se déplient, qui se défroissent, qui laissent passer de l'espace entre chaque orteil. Et on souffle à l'intérieur. On va chercher à descendre dans cet ancrage corporel. On relâche, on écoute ce que ça crée Et on va réguler, on bouge, on écoute, on déplie, on frotte, on bâille, on rebouge un peu le bassin juste pour redonner la mobilité, la fluidité dans cette direction qui a été indiquée au corps pour aller dans l'ancrage. Et je vous invite à prendre une grande respiration bien physique et à laisser cette fois-ci vos yeux s'ouvrir au moment juste pour vous. N'hésitez pas à bâiller, étirer, souffler, frotter si besoin. Et nous allons finir par trois petits automassages de manière à bien pouvoir répartir toute l'énergie dans les corps d'énergie de manière harmonieuse et que cela circule bien dans nos méridiens. Donc, les personnes qui me connaissent ont l'habitude. Pour les autres, je vais expliquer. Avec une main, vous imaginez que vous prenez un petit bol et ce bol va venir se retourner, se positionner au niveau du nombril. Donc, c'est juste, on va poser le bol sur le nombril. Le nombril va se retrouver au centre de ce petit bol. Et avec l'autre main, on fait un V et on va venir frotter, masser le haut et le bas des lèvres. Et vous frottez avec la main en coupole autour du nombril. Et tout en frottant, vous écoutez ce qui se passe au niveau du visage. Et vous invitez la respiration verticale. J'inspire par les pieds, je monte l'air au-dessus de la tête et à l'expiration, ça descend. Et j'accueille les soupirs, les bâillements, tout ce qui va pouvoir se relâcher et créer en moi plus de place pour être disponible et présent, présente. Voilà. Deuxième automassage, on garde la main coupole autour du nombril, on peut changer de main, ça n'a pas d'importance. Et là, on va aller au niveau des clavicules, chez moi c'est très présent, lorsqu'on rentre les épaules en avant, on voit qu'il y a deux trous qui se creusent. Et on va aller créer cet écart pouce majeur, on pose l'index sur le majeur de manière à aller masser sous les clavicules dans ces points. Pour les personnes qui sont familières avec l'EFT, ce sont des points qu'on retrouve dans le tapping, d'accord, en haut, en bas des lèvres, et sous les clavicules. Ce sont exactement les mêmes points. Et là, de la même manière qu'on a fait avec les lèvres, vous allez respirer profondément, écouter ce qui se passe en massant ces points. Et vous massez ces points avec énormément de tendresse. Dans la manière dont vous massez les poings, voilà, donnez-vous la pression qui est juste pour vous faire du bien, pour relâcher. Alors, lorsqu'on bâille, en travail énergétique, les bâillements sont utiles, nécessaires, vitaux, et on ne met pas la main devant la bouche puisque les bâillements vont permettre au contraire de faire sortir ce qui a besoin d'être sorti. Donc, on a là cette habitude sociétale hein, de mettre la main devant la bouche. Ici, bâillez largement, vous êtes chez vous et le micro a été coupé. Donc, n'hésitez pas à faire des grands bâillements si besoin, à mettre le son, parce que le son qui s'exprime, oh, il a aussi sa vibration et il va permettre d'aller encore plus loin dans ce qui est sorti du corps. Voilà, très bien. Et le troisième automassage, vous pouvez le vivre assis ou debout. La main est toujours en poil autour du nombril et cette fois-ci avec le poing fermé. On va aller frotter coccyx, sacrum, lombaire. Donc c'est vraiment le long de la verticalité, du haut des fesses jusqu'aux reins. On va frotter bien énergiquement coccyx, sacrum, lombaire. Avec l'autre main, il y a toujours le petit bol autour du nombril, de manière à répartir l'énergie. Et là, souvent, ça chauffe un peu à cet endroit-là. Les pieds sont toujours bien à plat au niveau du sol. et on laisse l'énergie se répartir. Et vous prenez trois profondes inspirations, expirations dans la conscience de la verticalité entre ciel et terre, et on peut relâcher les massages, écouter ce qui se passe dans le corps et peut-être comparer avec ce qui était là tout à l'heure lorsque vous avez écouter les zones confortables, les zones inconfortables du corps, les probables que les sensations se soient modifiées. Donc juste prendre un temps pour écouter de nouveau. Et je vous invite à partir de cet espace à descendre dans l'espace sacré du cœur, à inviter vos belles présences à se manifester. Très haut. Et simplement le cœur léger, l'esprit ouvert. L'invitation est de se rendre disponible. Disponible à ce qui va être. Dans cette thématique qui nous rassemble ce soir. Comment prendre soin de son âme?
Alors peut-être que pour poser davantage encore cette thématique, en fait, ce texte a été donné comme introduction, et puis après on verra ce qui s'invitera avec vous, avec Sandrine, avec moi, c'est vraiment à deux voix. Et ce que je vous propose, ça va être dans un premier temps de peut-être fermer les yeux, de vous installer confortablement. Comme l'a dit Sandrine, de vous mettre vraiment dans cet espace du cœur et peut-être d'écouter ce texte qui est un peu long, qui, voilà, qui a été donné en laissant résonner les mots qui ont été transmis. Comment prendre soin de son âme? Votre âme est comme un véhicule qui contient la mémoire de l'ensemble de toutes vos vies passées, ainsi que celle de tous vos apprentissages. Elle est une conscience qui a sa propre liberté et sa propre autonomie, tout en étant reliée à ce que vous pourriez surnommer votre essence, ou encore soi supérieur. Et bien évidemment, elle est également reliée à votre incarnation. Ce véhicule, qui est un amas de lumière condensée, se nourrit à la fois des émanations de votre propre essence, ainsi que de tout ce que vous vivez au travers de votre incarnation, vos joies, vos peines, votre amour, votre douceur, votre tendresse, mais également vos colères, vos tristesses et parfois même votre sentiment d'être un peu comme abandonné du ciel. Pourtant, il n'en est rien. Chacun, chacune d'entre vous reste relié à son âme, qu'il ou elle en ait conscience ou pas. Et votre âme veille sur vous à sa manière. Vous avez un libre arbitre au niveau de votre personnalité, tout comme votre âme également a son propre libre arbitre. Si nous prenons une métaphore, Ce serait comparable à ce qu'il se passe dans votre corps, entre votre cerveau situé à l'intérieur de votre tête et celui qui se trouve au niveau de votre cœur. De manière générale, les impulsions et les informations partent de vos hémisphères gauche et droit, et le cerveau du cœur laisse les choses se faire. Mais si le cerveau, au niveau de votre cœur, estime qu'il est important de redresser la barre ou de corriger la direction que vous prenez, alors les informations envoyées depuis le cerveau du cœur deviennent prioritaires au niveau du corps. Il en est de même pour votre âme. Vous avez une immense liberté d'action et de choix au niveau de la personnalité. Et l'âme sait être patiente. Mais si, par rapport au projet de l'âme concernant votre incarnation actuelle, votre âme estime que vous commencez à trop dévier de la route choisie avant incarnation, elle peut comme envoyer des impulsions, des informations, des incitations à vous montrer qu'une route différente peut être prise. Et l'âme vous laissera le choix de les écouter ou pas. Mais si l'âme estime que, définitivement, vous vous éloignez vraiment considérablement du chemin initialement prévu, alors elle a la possibilité de créer des événements qui viendront comme contrarier le cours de votre vie. Un peu comme un barrage fait de cailloux et de branches accumulées peut inciter une rivière à changer de cours. Ainsi, votre âme veille sur vous à chaque instant. Tout en vous laissant une profonde liberté, vous avez le choix et la liberté d'écouter et de suivre les indications de votre âme ou pas. Elle intervient quand elle le juge utile dans le cours de votre vie. Et de même, vous avez une influence sur votre âme. Tout ce que vous vivez vient s'imprimer en elle. Et parfois des chagrins très violents ou des épreuves particulièrement difficiles peuvent laisser une empreinte énergétique au niveau de votre âme. Pour répondre à la question « Comment prendre soin de mon âme ?», voici ce que nous vous proposons. Soyez attentif, attentive à ce que vous émanez, à rechercher dans votre vie la beauté, l'harmonie, l'équilibre, la justesse, l'amour et la lumière. Plus vous nourrissez cela en vous, et plus vous émanez en direction de votre âme des énergies correspondantes. Nous comprenons bien que parfois, la vie, avec les expériences qu'elle vous fait vivre, vient créer des émotions dites négatives, et qu'il n'est pas toujours facile de s'empêcher de les éprouver. Mais vous avez toujours le choix et la liberté, à un moment où votre vie sera plus calme, de demander à vous relier davantage à votre âme et d'émaner dans sa direction de la tendresse, de l'amour, de la gratitude, de la reconnaissance ou toute autre émotion positive que vous souhaiterez. Comprenez bien qu'en faisant cela, votre âme va en être nourrie et que cela va avoir littéralement une incidence sur elle. Un peu comme une main apaisante et tendre vient calmer le chagrin d'un enfant, tout ce que vous émanez de bon et de positif en direction de votre âme vient la nourrir et éventuellement apaiser les empreintes ou les traces qu'elle pourrait porter d'expériences moins agréables. Sachez également qu'il existe des êtres qui ont la capacité à pouvoir faire des soins sur l'âme. Ce sont des outils qui servent d'intermédiaire à la lumière et à l'amour pour prendre soin de votre âme. Et dans le cas d'expériences incarnées particulièrement difficiles, à soutenir l'énergie de celle-ci, voire même à contribuer de réparer les marques qui peuvent l'affecter. Mais ultimement, toute âme, lorsqu'elle va être libérée du véhicule de l'incarnation, va recevoir ce que vous pourriez appeler des soins dans cet espace que vous pouvez surnommer l'au-delà et qui se trouve par-delà le voile de l'illusion. Ultimement, même l'âme la plus marquée par une incarnation difficile va être prise en charge, aidée, soutenue et purifiée de toute expérience difficile, afin qu'elle ne continue pas à emporter le poids, incarnation après incarnation, tout en conservant la connaissance des apprentissages qui ont été afférents. Pour illustrer cela, voici un exemple. Si quelqu'un dans une incarnation a porté gravement préjudice à la vie de quelqu'un, lors de son bilan de vie, l'âme va devoir faire face à la charge émotionnelle et énergétique de tout ce qu'elle a créé durant cette incarnation. L'âme va comprendre, réaliser, vivre l'impact de ses choix et des conséquences de ses choix, non seulement sur la personne à laquelle elle aura, entre guillemets, fait du mal, mais également les impacts sur tous ceux qui auront été affectés par cela. Mais il n'est pas nécessaire, et même nous pourrions dire contre-productif, que l'âme continue de porter en elle le poids de cette souffrance. Aussi, il existe, vous pourriez dire, des techniques qui permettent de nettoyer l'âme de la charge émotionnelle de souffrance qu'il n'est pas juste pour elle de continuer de porter, tout en lui permettant de conserver tout ce qu'elle aura appris et ressenti des conséquences des choix qu'elle a faits précédemment. Ainsi, lors d'une nouvelle incarnation, elle conservera en elle la mémoire de ce qu'elle a fait, les apprentissages qui ont été effectués, et même, éventuellement, la mémoire corporelle de blessures reçues, par exemple, mais sans continuer de porter en elle la totalité de l'empreinte de la souffrance infligée ou reçue, car cela ne ferait que l'alourdir et ne lui permettrait pas de dépasser et de transcender un karma à nettoyer. Comprenez bien qu'il y a une différence entre ce qui a été appris, compris et intégré et qui reste bien au niveau de l'âme, de l'empreinte de la souffrance qui a été vécue ou donnée et dont il n'est pas juste qu'elle reste durablement au niveau de l'âme. Cela ne ferait que l'alourdir ou l'entraver pour sa mission suivante. Ainsi, tout ce qui a été appris et compris reste au niveau de l'âme, mais celle-ci, soit pendant son incarnation, soit après celle-ci, reçoit des soins qui l'aident à l'alléger des souffrances passées. Notre invitation est que vous preniez davantage conscience des liens énergétiques qui vous relient à votre âme et de lui envoyer, si vous le désirez, des énergies d'amour, de gratitude, de tendresse, comme nous l'avons évoqué précédemment. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre de temps en temps dans votre vie des moments d'alignement à votre âme. Par cela, nous entendons que vous puissiez poser l'intention de vous relier davantage à celle-ci et que vous puissiez visualiser, imaginer ou ressentir comme si une sorte de tube ou tout du moins un ensemble de liens, comme une corde tressée faite de multiples liens, vous reliait à votre âme. Prenez le temps de vous poser dans le silence et le calme pour faire cela, puis laissez les choses se faire. Vivez et ressentez l'interaction énergétique entre votre âme et vous-même. Vous pourrez parfois recevoir des énergies, des intuitions, des idées, ou toute autre information ou sensation. Vous pourrez parfois même vous sentir comme entouré par la tendresse et l'amour que votre âme a pour vous et prendre conscience que vous n'êtes jamais seul, que votre âme est comme une compagne qui veille sur vous à chaque instant, à chaque pas de votre vie. Et si cela vous convient, n'hésitez pas à la remercier de vous accompagner et de vous guider. La gratitude est une puissante clé d'évolution et de création. Là, le texte qui a été guidé et reçu et qui sera disponible dès demain sur mon site et très rapidement sur le site de Sandrine, puisque je lui enverrai aussi l'écrit et l'oral. Ce que je veux bien, c'est que vous preniez le temps de ressentir ce qui a résonné davantage en vous. Et que peut-être, si ça te va, Sandrine, qu'on ouvre un espace de parole, peut-être via le chat ou peut-être via, voilà, ça te va? Pour que du coup, ceux qui ont des questions puissent vraiment nous solliciter.
Pour information pendant la lecture, un soin collectif a démarré à travers ma forme incarnée pour l'ensemble du groupe et au-delà. J'ignore où va le au-delà, mais je le sens très puissamment en moi. Donc voilà, c'est important aussi que vous le sachiez si jamais vous ressentez des sensations qui peuvent ressembler à des tourbillons un peu autour de vous, qui sont très lents. C'est le soin énergétique qui est en train d'œuvrer pour le groupe. Et évidemment, si parmi vous, certaines personnes ne souhaitent pas le recevoir, vraiment, vous m'envoyez sur le chat directement sur mon nom le fait que non, vous ne souhaitez pas recevoir ce soin, puisqu'évidemment, vous avez votre libre arbitre. Et que par exemple, si vous avez reçu, je ne sais pas aujourd'hui, un soin énergétique et que vous ne voulez pas avoir une double dose, c'est tout à fait juste de dire non, non, moi j'en veux pas. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est important de le nommer. Et puis donc dans le chat, voilà, si vous avez des questions ou si vous avez des réactions.
Partage.
Les partages. Donc, merci beaucoup, canalisation et soins magiques.
Peut-être que je vais commencer pour l'instant ce qui s'invite. Et puis évidemment, voilà, dès qu'il y a. D'accord, mission d'âme aussi, ok. Une des choses que je n'avais pas forcément réalisées avec autant de précision, autant de. Comment dirais-je? De clarté, c'est qu'effectivement, depuis notre incarnation, il y a vraiment un impact sur notre âme. Qu'il y a vraiment, depuis longtemps, il y avait cette vision de la forme incarnée, une âme et un soi supérieur et un alignement vertical. Mais, et en fait, comme, voilà, comme Sandrine, comme d'autres, parfois les guides souhaitent m'utiliser comme outil pour faire un soin sur l'âme. Et en l'occurrence, j'avais déjà vu, du coup, ça fait presque 3 ans maintenant ils m'ont demandé de faire ça. Et en fait, j'avais déjà vu le fait que des choses difficiles, voire même très très violentes, venaient impacter l'âme. Ce qui m'a touchée quand le texte a été dicté, c'est que il y a vraiment eu cette notion de que en fait, C'est vraiment un flux d'informations, un flux d'énergie qui est là en permanence et que du coup, plus nous-mêmes, dans notre forme terrestre, on va s'élever, on va grandir en conscience, on va grandir en amour, on va grandir en lumière, plus ça vient aussi alimenter notre âme. Pendant longtemps, je croyais que c'était plutôt notre âme qui descendait vers nous et je n'avais pas aussi conscience que ça, qu'il y a vraiment un flux d'énergie qui est ascendant et descendant et qui fait que lorsqu'on vit des choses difficiles, ben, ça vient marquer un peu l'âme, ou en tout cas, ça vient imprimer l'âme d'une certaine manière, que ça peut se changer, comme vous l'avez bien entendu, mais que du coup, il y avait vraiment un flux d'informations qui était là en permanence. Alors, par rapport à la mission d'âme, je veux bien qu'il y ait... Alors, je prends juste le temps de mieux voir. Alors, attendez, je vais ouvrir le chat davantage. Alors... Je voudrais bien que la personne qui a eu l'immense gentillesse de mettre la question par rapport, voilà, pouvez-vous nous parler de la mission d'âme? Je voudrais juste que la personne, pour être sûre d'être juste, puisse préciser sa question. Voilà, qu'est-ce qui pourrait... On va voir ce qui va être dit là en direct, mais je veux bien qu'il y ait un peu plus de précision, parce que j'ai le mot détail qui apparaît dans ma tête. Alors, d'accord. Alors, pendant que cette personne-là va prendre le temps, je vais réagir par rapport à une personne qui a dit effectivement ce qui a fortement résonné, c'est le fait de conserver l'événement, les apprentissages, les expériences et non pas l'impact émotionnel. Ça, c'était quelque chose que j'ai découvert aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sens. Beaucoup de personnes savent déjà que lorsque on va quitter notre corps, qu'on va passer de l'autre côté et qu'on va rejoindre le monde spirituel, on va tous, sans aucune exception, vivre un et même plutôt d'ailleurs plusieurs, ce que des personnes qui ont vécu des NDE ou des EMI, enfin des expériences de mort imminente, ont surnommé un bilan de vie. C'est-à-dire que on va vivre à 360 degrés tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, tous les choix qu'on a vécu. Et on va le vivre d'abord de notre point de vue à nous, et puis après, on va le voir du point de vue des autres. Et on va le voir aussi, on va devoir vivre et ressentir ce qu'on a créé, généré. Et puis, on va aussi vivre et ressentir les impacts en conséquence qui ont eu lieu. Si vous jetez un caillou dans la mare, le caillou il va plouf, et il y a juste un impact. Le caillou va venir générer des vagues qui vont du coup aussi venir générer d'autres impacts avec d'autres personnes. Si par exemple, je suis moi en colère et que je parle mal à quelqu'un, eh bien cette personne va être impactée par ça et peut éventuellement du coup reporter ça sur quelqu'un d'autre. Donc lors du bilan de vie, il y a vraiment cette notion de devoir ressentir et vivre tout ce qu'on a généré, tout ce qu'on a créé de positif et de moins positif. Et ce qui a été très intéressant quand ce texte a été donné et qui avait beaucoup de sens, c'est que même lorsqu'on va du coup avoir fait des choses pas forcément topissimes, eh bien en fait, on va devoir dans notre bilan de vie vivre les conséquences de nos choix, vivre les conséquences, comment dirais-je, en cascade des choix qu'on a faits, ressentir cela, apprendre de cela, garder dans nous-mêmes les apprentissages de ça, de façon à ce que lors de prochaines incarnations, nous gardions tous les bénéfices de l'apprentissage et de l'expérience, mais il n'est pas juste de garder la totalité de la lourdeur de l'expérience. Et en fait, sur le texte, vous verrez, ils m'ont demandé de mettre la photo de la couverture du livre de Stéphane Alix. Certains doivent connaître peut-être Stéphane Alix. Et en fait, ils m'ont demandé de mettre la couverture du livre lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Stéphane Alix est un journaliste d'investigation qui a écrit beaucoup de livres tout à fait étonnants et qui sont vraiment au service de la collectivité, qui a cofondé l'INRES et qui est vraiment, vraiment quelqu'un qui est très tourné vers les autres et qui en fait s'est rendu compte lorsqu'il est parti un jour en Amazonie, lors d'un voyage chamanique assez long, il a demandé une quête de vision. En fait, il a une vision qui était un SS, en uniforme SS, avec un nom. Et comme c'est un journaliste d'investigation, il a fait une enquête de 2 ans et demi, très poussée, pour comprendre qui était cet Alexander, et il s'est rendu compte que c'était lui dans sa vie précédente. Et il a eu le courage et l'honnêteté, l'authenticité et la vulnérabilité extraordinaire de partager ça dans ce livre lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Et en fait, il a montré tout le parcours de pouvoir essayer de comprendre pourquoi cet homme, qu'il avait été juste dans sa vie précédente, était devenu un SS jusqu'à mourir sur les champs en Russie, les champs de bataille en Russie. la personne extraordinaire qu'est Stéphane Alix dans cette vie actuelle, s'il était revenu avec la totalité de l'horreur qu'il avait créée, puisque Alexander a aussi travaillé dans des camps de concentration, si l'âme de Stéphane Alix était revenue avec la totalité de tout ce qu'il avait généré, aussi bien sur des champs de bataille que en tant que SS, puisqu'il faisait partie de la tête d'élite des SS, ça n'aurait pas été juste. Comme cela a été dit, ça viendrait alourdir l'âme et ça viendrait du coup pas permettre de sortir de karma parfois difficile. Et ma conviction, c'est qu'en ce qui le concerne, c'est peut-être parce qu'il a vécu ça, qu'il a été cet homme dans cette vie précédente, qu'il a dû ressentir tout ce que ça a généré, qu'il est cette personne si pleine de cœur, si authentique, si ouverte et si incroyable dans cette vie actuelle. À titre personnel, dans une vie que je porte, j'ai été un tyran maya avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de. J'ai dans cette vie-là, j'ai a priori assassiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et prendre la mesure. Ok. Je ne sais pas où est Sandrine, on va
Je
continuer.
suis là.
Voilà, super. Et en l'occurrence, lorsque j'ai dû faire face à la comment dirais-je, à tout ce que j'avais généré comme souffrance, je vous prie de croire que le bidon de vie avait été un vrai moment de bonheur. Et en fait, ce n'était pas forcément juste de revenir avec le montant de la souffrance générée. Par contre, je n'ai jamais oublié, et je l'ai encore en mémoire, cet homme que j'ai été. Et parfois, quand dans ma vie actuelle, j'ai un peu plus de mal avec certaines personnes, eh bien, en fait, ça me permet de relativiser parce que j'ai l'apprentissage et j'ai la mémoire et tout ce que j'ai appris d'avoir fait ce choix-là dans cette vie précédente. Ça a du sens par rapport à la personne qui avait posé cette question-là? Valérie, voilà, je veux bien que Valérie ait la gentillesse de dire si ça répond à ça. Alors, j'oublie pas, voilà, comment
Oui,
se met-on en
ça
phase?
répond, ça répond, Anne. Voilà,
D'accord, merci
merci.
beaucoup.
Merci.
Super.
J'ai posé une question complémentaire, mais
Alors,
voilà,
je
après,
défile
je
dans
veux
le chat, je vais y
pas.
arriver,
Ouais, voilà,
merveilleux.
pas de souci.
Comment se met-on en phase avec son âme? En fait, ça va déjà être, j'aime beaucoup cette question aussi, c'est que c'est en fait, ça va être une question de décision. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir être aligné avec son âme, ça va supposer deux choses. Une première chose qui est plutôt vers le ciel, qui est de poser l'intention de se relier à son âme, de poser l'intention de vraiment prendre la décision presque que ça soit notre âme qui soit aux commandes. C'est vraiment un choix de libre arbitre qui fait au niveau de la personnalité, de souhaiter que notre âme nous inspire. Il me montre dans la tête, par exemple, cette personne merveilleuse qui est un avocat néerlandais et qui, pendant 3 semaines, a médité entre lui et deux pour dire qu'est-ce que je peux faire pour la vie, etc. Et son âme lui a dit, fais un documentaire sur la puissance de l'amour. Et en fait, il a fait un DVD extraordinaire, exceptionnel, effectivement, qui s'appelle La puissance du cœur et l'infinie puissance du cœur de mémoire. Voilà, et c'est parce que du coup, il a posé l'intention de se mettre en alignement avec son âme. Mais ce qui est vraiment dit avec beaucoup de force à l'intérieur de moi à l'instant, c'est que cela ne suffit pas, parce que sinon, si on n'est pas posé les deux pieds sur terre, si on n'est pas vraiment ancré, c'est-à-dire en accord avec son corps, en accord avec le fait d'être là, vivant, vivante sur Terre. Si on ne travaille pas suffisamment notre ancrage, c'est comme si même cette intention de se relier, de se mettre en phase avec notre âme, restait un peu au-dessus de la tête. C'est l'image qu'ils envoient. C'est-à-dire que pour que, du coup, cette puissance d'amour, de lumière puisse descendre davantage et puisse se matérialiser, s'incarner, ça va supposer qu'elle puisse être accueillie à l'intérieur de nous. Et il me montre une image qui monte parfois en disant que lorsque il y a vraiment de la difficulté à être bien dans son corps ou dans le fait d'être incarné sur Terre, c'est un peu comme si on avait beaucoup d'oursins à l'intérieur de nous. Et l'âme, en regardant le lit d'oursins, n'a pas forcément hyper envie de descendre. Et que par contre, quand on va travailler et qu'on va apprendre à s'aimer davantage, à s'apprécier, à pouvoir éventuellement être reconnaissant d'avoir ce corps qui nous permet de manifester l'amour et de faire des expériences, et qu'on laisse de la place à l'intérieur, L'image qu'ils envoient, c'est vraiment comme un lit de rose, de pétales de rose. Et quand l'âme voit un lit de pétales de rose, elle a plus envie de descendre et de pouvoir se manifester au travers d'une phase, d'une forme incarnée. Donc, comment se mettre en phase avec son âme? Voilà, en étant à la fois très dans l'incarnation, ancré et aligné. Et puis, voilà, et en même temps, de souhaiter la vie de son âme par rapport à Flore qui dit aussi que professionnellement, dans sa famille, dans sa vie amoureuse, il n'y a pas de domaine dans lequel l'âme, voilà, va pas du coup interagir. Il suffit de demander à recevoir davantage encore cette guidance. Le pardon à mettre en avant,
Anne,
pourquoi pas?
juste si tu
Oui,
me
mon Dieu,
permets d'intervenir,
volontiers.
juste par rapport à ce que tu viens de dire, hein, pour les personnes que j'accompagne déjà, ce qu'Anne vient de décrire, c'est le schéma que je représente dans ma conférence sur l'hypersensibilité. C'est ce fait que pour la plupart des hypersensibles, il y a ce décalage de l'énergie vers le haut et qui empêche en fait cette pleine et entière fusion, en fait fusion amoureuse du ciel et de la terre, c'est-à-dire de l'âme dans le corps, du céleste dans la matière. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment tout ce que j'expérimente et tout ce que j'explique dans la conférence sur l'hypersensibilité pour les personnes qui ne me connaissent pas. Par rapport à, donc si vous êtes là, c'est que vous connaissez Anne, on va dire que ma spécificité, c'est que j'accompagne beaucoup cela, c'est-à-dire les difficultés d'incarnation, puisque cela était mon cas. Et donc, c'est ce que j'accompagne, comment faire rentrer cette magnifique puissance de lumière qui est aussi tellement vulnérable dans ce qui est perçu parfois comme quelque chose d'étriqué, de lourd, de difficile dans lequel on peut s'engager. Souvent, je donne cette image de comment je peux faire rentrer un pied dans ma chaussette qui est tellement toute petite et effectivement au fond de la chaussette, il y a des piquants, il y a des petits morceaux de verre, il y a des petits cailloux qui se sont posés et tout le défi consiste à descendre peu à peu et créer cet équilibre qui va permettre le plein accord sans distorsion, en fait. C'est ça. Parce que tant qu'on est un petit peu trop haut, tant que cette épousaille, ces retrouvailles ne se sont pas manifestées, il va y avoir des distorsions, il peut y avoir des interprétations, beaucoup d'interprétations, des messages de l'âme qui vont être récupérés par, en fait, par notre ego, que nous croyons être le message de l'âme et dans lesquels on va venir parfois s'empêtrer. Alors que lorsque la réunification est effectuée, en fait, l'information, elle est directement vécue à partir du corps. Elle est reçue par le souffle, elle est envoyée par le souffle de l'esprit. Elle est reçue dans le cœur et elle est comme en résonance dans le corps. Et donc, c'est la manière, tu confirmes, je pense, hein, notre manière d'être en guidance, c'est que c'est tout notre être qui est parcouru d'une information et nous avons immédiatement l'information, juste ou pas juste. Et la deuxième chose aussi que je souhaiterais compléter par rapport à ce que tu as dit, c'est que lorsque nous avons, comme cet avocat que tu as cité, cette inspiration, en fait, moi, je vois énormément de personnes qui, en réalité, sont en relation avec leur âme. Elles sont merveilleusement reliées, elles sont merveilleusement inspirées. Néanmoins, et probablement que c'est encore parce qu'il y a cette difficulté d'ancrage, c'est comme si ça ne passait pas à l'action. On a l'information, mais il n'y a pas de passage à l'action. Il y a des doutes. Et si ce n'était pas la bonne chose? Et si, parce que dans l'exemple que tu as cité, ça a été comme direct. On passe à l'action. Hein, voilà, il y a quelque chose qui est, je reçois l'information, je passe à l'action. Voilà. Et c'était, voilà, le complément que je voulais amener. Il y a quelque chose qui se joue dans la matière. Et tant qu'on est, entre guillemets, en doute ou en questionnement, c'est qu'il y a encore une forme de flottaison et qu'il n'y a pas un plein ancrage, un plein enracinement de l'âme dans la matière. Voilà.
Et pour juste exactement, voilà, finir sur ce thème-là, en fait, qui peut-être que vous avez déjà vu des personnes comme ça. C'est-à-dire que lorsque il y a déjà cette connexion à l'âme, que la personne elle travaille son ancrage, que la personne elle travaille son accueil et son accord à être incarné. En fait, les guides disent souvent, et c'est ce qu'ils m'ont demandé de préciser, enfin de compléter simplement, c'est un peu comme si la personnalité, du coup, voilà, faisait de la place, accueillait et que l'âme pouvait d'une certaine façon un peu habiter la personne. Et du coup, les qualités qui sont au niveau de l'âme, c'est-à-dire la vibration que l'âme a choisi d'expérimenter, descendent dans la matière et se voient et rayonnent et vraiment se manifestent au travers de la matière. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez aussi cette merveilleuse personne qui s'appelle Nicole Dron, qui a vécu une NDE il y a des années. Et en fait, Nicole Dron, depuis, a fait pas mal de conférences, notamment sur YouTube. Si vous regardez Nicole Dron il y a 15 ans et elle maintenant, c'est spectaculaire de voir son visage. On voit maintenant la lumière qui sort littéralement d'elle. Elle est tellement en accord avec son âme. C'est comme si l'épiderme, les guides disent que c'est comme si l'épiderme devenait plus fin. Comme il y a un accord total à être là, il y a vraiment une acceptation totale d'être là. C'est comme si de l'intérieur, l'épaisseur de la peau était voilà, plus fine et que du coup, l'âme pouvait plus être là et du coup rayonner, se manifester et était incarnée en fait. Et donc, du coup, créer directement. Il y a une personne qui a dit, donc, le pardon à mettre en avant. À titre personnel, ça fait partie des choses que mon âme a choisi d'expérimenter dans cette vie, le pardon. Et donc, c'est un sujet que je connais bien. Le pardon, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement personnel. Je pense que c'est vraiment un cheminement, que c'est quelque chose qui peut-être peut s'inviter chez quelqu'un, mais que jamais ça doit être quelque chose qui doit être imposé, puisqu'en fait, s'il y a pardon, ça suppose, voilà, qu'il ait pu avoir souffrance de soi-même ou des autres. Et effectivement, le pardon libère la personne. Ça, c'est une réalité. Elle vient vraiment faire de la place, et y compris à soi-même. Vous connaissez sûrement le livre merveilleux de Olivier Clair, Le don du pardon, qui vient de Don Miguel Ruiz, qui est vraiment une petite splendeur. Il n'y a pas que lui qui en parle, mais voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un merveilleux travail et un merveilleux outil. Et en l'occurrence, oui, le pardon peut poser de la légèreté, de la liberté, de la paix surtout, dans la personne qui va le faire. C'est quand c'est imposé, c'est pas juste. Lorsque c'est un choix, un chemin dans lequel on s'engage, là, c'est beaucoup plus juste en respectant son rythme. J'espère que j'ai répondu à la personne. Voilà. Étant certain de ne pas garder cette lourdeur d'âme, Valérie voilà qui posait la question. En fait, de ce qu'on m'a fait sentir lorsque le texte a été donné, c'est que il en reste encore une petite partie. Mais ce qui est trop lourd pour l'âme, trop lourd pour l'âme, là est enlevé. Ce qui va venir aller à l'encontre du projet de l'âme qui est de progresser. Imaginez, il me montre un grimpeur qui serait sur une montagne et qui devrait partir, dont la mission, par exemple, dans la mission d'âme, ça serait monter à 2000 mètres et qui partirait avec 120 kilos au départ. Il pourrait pas. Ça serait déjà dès le départ, il partirait perdant, à moins qu'il soit un haltérophile, mais s'il veut être un grimpeur, s'il part avec 120 kilos, déjà dès le départ, on sait qu'il n'a pas le la, il se donne pas de chance de pouvoir arriver au sommet. Donc, ce qu'il me montre, c'est comme si les guides, d'une certaine manière, avec les soins qu'ils ont évoqués et de la manière dont ils l'ont évoqué aussi avant, peuvent aider la personne à dire, tu peux déposer ce sac à dos-là, ce sac à dos-là, ce sac à dos-là, et tu vas repartir avec un petit sac à dos, qui est quand même cette charge-là que toi, tu dois, avec lequel tu dois arriver, parce qu'il n'est pas juste que tu partes avec rien, parce que peut-être que tu vas être amené à rencontrer certaines personnes que tu as touchées et que tu auras besoin d'avoir ce bagage à l'intérieur de toi pour pouvoir te rappeler de ce que tu as généré. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir la totalité. Et là, c'est voilà, ils disent que c'est vraiment, ils me disent que c'est pesé avec minutie et que c'est considéré avec grand soin, avec l'âme concernée, avec les guides et pas seulement le guide de la personne, c'est vraiment pesé avec soin. Alors, je m'interroge sur le lâcher prise nécessaire à l'engagement et à écouter et servir sa mission d'âme. J'ai un éclat de rire à l'intérieur de moi. En fait, ce qu'ils disent à l'intérieur de moi, c'est que jamais une mission d'âme ne va pas être calibrée, c'est leur terme exact, pour être magnifiquement ajustée à la personne. Et quand ils disent à la personne, c'est compte tenu du contexte, du corps, des qualités. Et de la personne, c'est-à-dire des ressources, des forces et des points de faiblesse qu'elle peut avoir. Ils disent que c'est vraiment, ils me montrent une balance à l'ancienne, vous savez, avec ces poids minuscules qui vont jusqu'à 1 gramme et moins d'1 gramme. Et ils montrent que, ils me montrent comme un poids, comme la plume de maths, c'est drôle. Et en face, des poids qui sont mis de façon à pouvoir être absolument sûr que l'âme, là encore, puisse partir avec tous les atouts. Et donc, ils parlent de calibrage, que jamais une mission d'âme est calibré pour être au-dessus de ce que l'âme peut créer, peut générer, peut supporter, peut dépasser. Donc en fait, c'est vrai que ça va venir faire travailler au niveau de la personnalité, parce qu'effectivement, s'il y a un peu, comme l'a dit Sandrine, justement, une envie de pas être ancrée, voire même un peu une fuite vers du spirituel, etc., ou en tout cas une difficulté à accepter l'incarnation, malheureusement là, il y aura plus de doutes et de tergiversations. Mais faites confiance à votre âme parce qu'elle est très sage. C'est vraiment une conscience extraordinaire. Donc en fait, tout est magnifiquement prévu compte tenu de qui vous êtes, où vous êtes, de votre contexte familial, contexte professionnel, etc. Une personne a dit aussi, est-ce que tu as parlé de soins? Est-ce que tu peux en dire plus? Tu veux en parler aussi, Sandrine? On a deux façons complètement différentes de faire les choses, mais je trouve ça intéressant, ça te va? Vas-y, je t'en prie.
J'ai pas vu passer le message, c'est sur les soins
Oui, tu
de
as parlé de
soi-même.
soins, sur l'âme. Tu peux en dire
D'accord,
plus, de soins
ok.
sur l'âme.
De soins sur l'âme. Alors, je ne sais pas si la question concernait ce qui se vit ce soir ou d'une façon générale, les soins
Alors,
sur l'âme.
est-ce que Nicole, tu peux avoir gentillesse de préciser, s'il te plaît? Comme ça, du coup, qu'on soit sûr d'être juste.
Oui, de façon générale. De façon
D'accord.
générale. Ok, très bien. Donc effectivement, Anne et moi, nous n'avons pas les mêmes façons d'intervenir. Moi, dans ma formation de base, je suis kinésiologue, donc je touche les gens. Je travaille aussi à distance, mais d'une façon générale, on va dire dans 70% des cas, les gens viennent plutôt à mon cabinet de manière à ce que je travaille sur l'âme à partir du corps. Et ça n'est pas le cas à chaque séance. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre, un moment qui s'ouvre comme une porte, une opportunité qui est offerte à ce moment-là à la personne lorsqu'elle est prête, lorsqu'il est juste pour elle de recevoir. Et cela peut se présenter sous des formes extrêmement différentes. Donc il peut effectivement y avoir besoin d'un véritable soin sur l'âme. Dans ce cas, cela suppose que l'âme a été blessée, qu'elle porte une charge, qu'elle porte quelque chose que Anne et moi percevons comme une disharmonie. Dans ces cas-là, moi j'interviens avec mes mains et avec tout mon être. C'est quelque chose qui se manifeste à travers des perceptions, à travers des sensations et par le canal que je suis, je vais aller c'est difficile à mettre en mots. Je vais aller, on va dire, remettre de l'harmonie sur ces zones qui peuvent m'apparaître extrêmement abîmées, douloureuses. Donc, il y a vraiment une perception visuelle, une sensation que je vis dans mon corps. C'est-à-dire que souvent, la douleur, la souffrance qui est là, en fait, je la vis dans mon corps. Et cela m'indique comment œuvrer pour nettoyer, enlever, recoudre. Ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Je vais vous donner par exemple un exemple très concret. Ce que je vois souvent, ce sont les couches. Hein. Vous connaissez les corps subtils. On est recouvert de corps subtils. Eh bien, ces corps subtils sont créés de milliards et de milliards de couches. qui sont sans cesse en mouvement, et ces couches, elles sont réparties comme des feuillets. Hein, donc, on peut imaginer, vous connaissez le millefeuille, le gâteau, d'accord, voilà. Donc, les feuilles sont bien plus fines, la crème est bien plus fine aussi, et quelquefois, voilà, dans ces feuillets, bah, à la place de la crème, il y a des petits cailloux, il y a des feuillets qui sont brisés. Imaginez un millefeuille, et puis au centre du millefeuille, mais en fait, il y a comme un trou qui apparaît, voilà. Et là, en allant dedans, vraiment, je vais dedans, je me projette dedans. Lorsque j'arrive à cet endroit-là, je peux avoir les informations qui me sont envoyées ou pas. Et là, ce n'est jamais moi qui décide. Les guides vont m'envoyer l'information ou pas. Et l'information est envoyée si cela est utile pour moi, si cela est utile pour la personne, d'avoir l'information consciente, remets ça dans le conscient. Quelquefois, simplement, j'œuvre pour et je nettoie simplement pour libérer l'âme de cette lourdeur. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les soins lorsque l'âme est abîmée. Et après, il peut y avoir des soins, j'ai envie de dire, préparatoires. Donc ça, c'est une merveille lorsque cela m'est offert de vivre cela, parce que là, c'est vraiment pour moi des moments où je suis honorée de préparer une âme à s'incarner. Donc ça m'arrive assez régulièrement de travailler sur des mamans qui viennent avec des difficultés de fertilité et que dans le travail qui se fait, l'âme qui est en attente, hein, en fait, se présente à moi et on va créer des soins spécifiques pour la préparer justement à l'incarnation. Et puis après, il peut y avoir aussi un suivi. Une fois que l'âme est dans le ventre de la maman, et ça, c'est vraiment les soins qui me mettent dans une gratitude éperdue parce que ce sont des moments absolument privilégiés. Voilà.
Alors en fait, ce qui est amusant, c'est que quand on a partagé avec Sandrine hier justement comment toutes les deux on était amenées à travailler sur les âmes, on a deux façons radicalement différentes et en même temps, il y a énormément de similitudes et de points communs dans les perceptions qu'on peut avoir, etc. La façon dont les guides me demandent de temps en temps de servir d'outil pour faire un soin sur l'âme, parfois c'est en direct. Très souvent, majoritairement, en fait, ils me font aller dans un endroit particulier de la bibliothèque akashique. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la bibliothèque akashique, mais en l'occurrence, en tout cas pour moi, la majorité du temps, quand ils me font faire un soin, enfin, quand ils ont besoin de l'outil que je suis plutôt, c'est pas moi qui fais, mais quand ils ont besoin de l'outil que je suis pour servir d'outil intermédiaire à faire un soin sur l'âme, en fait, je me retrouve dans l'entrée de la bibliothèque avec les gardiens et je vais dans un endroit bien particulier qui est juste à tout près de l'entrée. Et la façon dont mon cerveau traduit les âmes, la façon dont, pour que cette masse d'énergie, etc., pour que du coup le cerveau puisse réussir à appréhender, la façon dont mon cerveau fait ça, c'est que je vois les âmes sous forme de lotus de lumière. C'est absolument sublime à voir. Et en fait, c'est comme des lotus qui sont avec des centaines de pétales, qui sont vivants, c'est très mouvant, c'est très subtil. Il y a beaucoup de lumière qui part du cœur. Il y a vraiment de la lumière qui part du cœur de ce lotus. Et quand justement, il y a besoin d'un soin sur l'âme, la façon dont ça m'est montré, c'est comme si des pétales étaient froissés ou même vraiment, vraiment très abîmés. Donc en fait, la façon dont mon cerveau représente ça, c'est je vois physiquement que dans le lotus, eh bien, il y a des pétales qui sont abîmés, etc. Et dans ces cas-là, la manière qui me font travailler, eh bien, c'est que je sois en présence de la personne ou que je sois en distanciel, j'ai les mains en coupe et en fait, l'âme vient dans les mains. C'est elle qui décide. Et il y a des âmes très pressées, des âmes plus lentes, des âmes. C'est très amusant, chaque âme a son caractère. Et en fait, les mains se mettent à vibrer et c'est pas moi du tout qui fais quoi que ce soit, c'est les guides passent à travers l'outil que je suis pour que bah, du coup, de l'énergie passe directement des mains jusqu'à l'âme. Et l'âme a un poids, l'âme a une consistance. Comme l'a dit Sandrine, on peut la toucher, on peut vraiment, on la sent. Et ce que je vois dans ces cas-là, c'est que quand ils font un soin sur l'âme comme ça, parfois de l'information va être donnée et je vois physiquement les pétales qui se reconstituent ou qui se défroissent ou qui se déplient, etc., jusqu'à ce que l'âme soit encore plus lumineuse et que du coup elle s'envole, voilà, des mains. Et puis, depuis pas si longtemps que ça, ils m'ont demandé d'intervenir parfois dans un endroit là-haut, qu'ils ont surnommé la nurserie, où il y a des âmes particulièrement fracassées par la vie. Des âmes à qui il est arrivé des choses particulièrement, enfin des âmes incarnées, où dans la matière il est arrivé des choses particulièrement difficiles et douloureuses. Et à ce moment-là, l'âme, elle est comme un peu comme un hérisson, c'est-à-dire qu'elle est repliée sur elle-même. Et en fait, que ce soit de toute façon dans la première salle, que ce soit dans la seconde, il y a vraiment, tout est fait avec une délicatesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de la personnalité qui est là. C'est vraiment 100% être outil. Il doit y avoir aucun désir, aucune attente. Enfin, il y a vraiment, il y a qu'une forme qui se met au service de la lumière pour que ça passe à travers la forme incarnée. Parce que c'est tellement incroyable et précieux d'avoir une âme, c'est tellement une, comment dirais-je, j'ai tellement de gratitude et de reconnaissance qu'ils aient choisi aussi que ça puisse passer par cet outil-là. Donc en fait, c'est tellement précieux une âme que tout doit être fait avec une minutie, des précautions, une pureté, une douceur du temps. Ça prend en général du temps de faire ce genre de choses, où en fait, c'est vraiment eux qui passent à travers voilà, le corps et les mains. C'est eux qui font tout, mais à chaque fois, j'ai un sens du sacré. Quelque chose d'extraordinaire, un véritable privilège lorsque voilà, il y a besoin d'une forme incarnée pour servir d'intermédiaire. Voilà, j'espère que ça répond à la question par rapport aux soins. Et puis bien sûr qu'il doit y avoir d'autres personnes, enfin je sais qu'il existe d'autres personnes qui le font aussi, et chacun, chacune va avoir sa manière, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même au cours d'une incarnation, si c'est un peu lourd, c'est quelque chose qui peut être fait.
J'ai très
Vas-y.
envie de, voilà, de compléter ce que Anne a dit avec
Volontiers.
un exemple qui m'est vraiment venu, qui m'est revenu là, que j'avais d'une séance que j'ai vécue il y a très longtemps, ce que nous n'avons pas exprimé peut-être suffisamment clairement aussi, c'est qu'effectivement, nous ne sommes que des outils et que généralement, nous n'œuvrons pas seuls. Nous œuvrons avec les guides de la personne. Nous œuvrons avec nos propres guides et quelquefois, et c'est ce souvenir qui m'a été envoyé là, certaines autres âmes s'invitent dans le soin au moment le plus précieux. Et donc, ce que je voulais vous raconter, c'est que j'étais toute jeune thérapeute et que je ne sais même plus exactement quelle était la problématique de la dame qui était là, mais j'ai le souvenir vraiment que à un endroit très précis, son aura était déchirée. Vraiment, il y avait une déchirure, exactement comme un tissu, vous voyez, un tissu comme de la soie qui aurait été tiré de part et d'autre et qui aurait vraiment été déchiré. Et donc, on a fait une séance et au moment où je prends sa tête délicatement entre mes mains pour commencer le soin de réparation de son aura, je vois arriver une âme très très reconnaissable sous forme d'une vieille dame qui sort mais vraiment j'ai ce souvenir de ce geste, une magnifique aiguille d'argent, un fil de soie et qui commence à recoudre à ma place, donc OK, ben je vous laisse faire. Je commence à recoudre à ma place tout cet endroit qui était déchiré et qui fait ça très bien, très minutieusement, avec des petits points. Moi, je ne suis pas du tout bonne couturière. Donc, évidemment, je laissais faire, très émue. Et tout en la regardant faire, moi, je continuais à envoyer de l'énergie pour la dame. Et donc, je dialogue avec l'âme, qui me dit très naturellement, mais je suis sa maman. Voilà. Donc, j'étais très touchée et je laisse le soin se terminer puisque c'était ce qui était demandé. Et je teste, puisque moi, en kinésio, donc on teste tout le temps ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Donc, Je teste, est-ce que j'ai le droit de parler de cette intervention à ma patiente? Et le test répond oui. Donc, voilà, avec beaucoup de délicatesse, je lui raconte ce qui vient de se vivre. Et là, elle se met à rire et à pleurer en même temps en disant, Oh, mais ma maman, elle était couturière! Voilà. Et ça fait partie de ces moments extraordinaire où on ne peut pas inventer quelque chose comme ça. Parce que j'étais totalement ignorante de cela. Donc voilà. Et je pense que Anne, comme moi, nous avons été enseignés par nos guides, mais moi, j'ai été énormément enseignée par chaque âme que j'ai le privilège d'accompagner dans mon cabinet ou à distance. Ce sont les âmes qui m'ont enseigné beaucoup. Et qui nous offre à chaque moment cette infinie confiance. Effectivement, on se sent très privilégié d'assister à des scènes comme ça. Et qui en plus vont faire du bien. Après, sur le court, moyen ou long terme, on sait que ça va faire du bien à la personne. Voilà.
Je pense que par rapport aux soins, on était plutôt complète. Alors, juste, je regardais les questions aussi. Il y avait une question par rapport à l'avocat qui avait créé l'infinie puissance du cœur. Donc, je suis allée regarder. C'est Baptiste de Pape. Baptiste sans E, puisqu'il est néerlandais. Donc, BAP, je vais le mettre du coup. Je vais mettre avocat néerlandais, comme ça, du coup, on va faire le simple. L'infinie puissance du cœur, c'est un DVD pas forcément très facile, parce qu'il va parler de cas, il va interviewer des personnes qui ont vécu des choses particulièrement difficiles et intenses. Il y a une des personnes qui était au Rwanda pendant le génocide. Donc, on n'est pas sur des choses faciles, faciles, mais c'est un DVD qui va vraiment parler de l'infinie puissance du cœur. J'ai vu aussi, merci à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de mettre le prénom de Nicole Dron. Donc là, parfait. Est-ce qu'une mission d'âme peut être simplement d'apprendre à s'aimer? Ça rit à l'intérieur de moi en disant, ce n'est pas forcément simple. Ils disent que c'est une très jolie mission et qu'effectivement, une mission d'âme peut vraiment être d'apprendre à s'aimer et que dans ces cas-là, en général, le contexte dans lequel la personne arrive, enfin la personnalité arrive plutôt, n'est pas forcément évident et que parfois il faut un certain nombre de vies incarnées pour pouvoir apprendre à s'aimer. Et donc, c'est pas forcément simple de s'aimer. Ils disent avec beaucoup d'humour qu'une mission d'âme n'a pas forcément besoin d'être grandiloquente. Au contraire, ils me montrent par exemple, il y a pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer qui sont arrivées avec la mission se respecter, apprendre à se respecter. Et donc effectivement, s'aimer. Ils disent que ce n'est pas simple à la fois dans le parcours d'apprendre à s'aimer, mais que surtout quand la personne va du coup écouter l'influence de son âme et souhaiter profondément du coup faire ce chemin d'amour vers elle-même, elle va comme éclabousser de son amour toutes les personnes qui vont être autour d'elle. Donc là aussi, ça ne sera pas simple, puisqu'en fait, il va y avoir beaucoup d'impact dans le fait d'apprendre à s'aimer et de le transmettre aux autres en le montrant comme exemple et en le rayonnant et en éclaboussant, parce qu'ils me montrent des éclaboussures, en éclaboussant de cet amour, les gens autour d'eux. Tu voulais rajouter quelque chose, Sandrine, ou pas, par rapport à ça? D'accord. Une autre personne qui dit finalement, nous n'avons rien à faire, l'âme se manifeste à nous le moment venu. Alors, j'ai vraiment ce geste, oui et non.
Pareil.
C'est-à-dire que, comme cela a été dit, si l'âme estime qu'on prend un peu beaucoup de temps à se réveiller ou à se rappeler ce qu'on est venu faire sur Terre, elle va se débrouiller pour essayer de nous remettre dans la direction qu'on a décidé de prendre. Mais lorsqu'il y a cette conscience ou lorsqu'il y a cette compréhension qu'en fait tout est magnifiquement orchestré et qu'en fait on a tout intérêt pour notre incarnation, pour la façon dont on vit notre vie, de nous mettre en alignement avec notre âme et de nous laisser inspirer par elle, eh bien dans ces cas-là, on peut favoriser le processus, voire accélérer le processus. plus on va, c'est comme si je prends la comparaison avec les guides. Toute personne qui va du coup souhaiter interagir davantage avec ses guides, on n'a pas forcément besoin de les entendre, ils ont mille et une manières de communiquer avec nous. Mais si une personne invite dans sa vie la présence des guides, du coup, sa vie va être changée, puisque du coup, il va y avoir des conseils, des synchronicités, des signes, des messages qui vont arriver. C'est pareil avec notre âme. C'est-à-dire que si on pose l'intention vraiment de pouvoir davantage être relié à notre âme, c'est comme, il me montre comme une rivière où il y aura un peu un gros rocher au milieu qui serait sur le rocher, c'est marqué volonté. L'image qu'ils envoient dans ma tête, c'est une rivière où il y a un rocher, l'eau passe à gauche, l'eau passe à droite, mais il y a un gros rocher au milieu marqué volonté. Et que si du coup, on va un peu laisser notre volonté, c'est-à-dire qu'on va quelque part accepter de céder une partie de notre libre arbitre pour le donner au libre arbitre de notre âme, qu'on va être beaucoup moins dans le contrôle ou dans la volonté que les choses se passent de telle ou telle manière, alors à ce moment-là, il me montre que c'est comme si on enlevait le rocher, le gros caillou, on va dire, du milieu de la rivière peut couler et peut vraiment s'exprimer. Il me demande de partager la manière, par exemple, dont ce texte a été donné la semaine dernière. Ils me font aller dans un endroit, un espace intérieur où il n'y a plus aucune volonté, aucun désir, aucune attente, il n'y a que de la disponibilité. Et c'est comme ça, dans cet espace-là, que les textes sont reçus. Parce que s'il y avait de la volonté, il y aurait de l'ego, il y aurait de la personnalité. Voilà. Toutes les personnes pour qui on a évoqué, voilà. Est-ce qu'il y a, s'il y a... Alors, comment connaître sa mission d'âme? On va l'évoquer. Tu voulais dire quelque chose aussi, Sandrine, ou pas?
Non, par rapport à ce que tu as dit, c'est complet. J'étais sur comment connaître sa mission d'âme, moi aussi. Voilà.
Alors,
Je pense que tu y as déjà répondu partiellement à travers tout ce que tu viens d'évoquer, hein, lorsque.
ce qui va se passer, il y a deux choses qui viennent à l'intérieur. La première, c'est qu'effectivement, lorsqu'on pose en particulier l'intention que d'être aligné à notre âme et de parcourir le chemin que notre âme a décidé avant incarnation, et que du coup, on devient à l'écoute des signes, des personnes, de ce qui s'invite et qu'on est guidé de cette manière-là, c'est une première manière de faire les choses. Et puis, comment connaître sa mission d'âme? Ça va être beaucoup par l'expérimentation. J'aime beaucoup la métaphore de Jean-Jacques Rêvecoeur qui dit qu'en fait, c'est quand on va avoir parcouru déjà une partie de notre vie et qu'on va se retourner et qu'on va voir en fait qu'il y a comme s'il y avait un fil rouge conducteur qui était là depuis toujours. Et quand on était au début du chemin, on n'avait pas le recul pour pouvoir s'en rendre compte. Et très souvent, des personnes posent en channeling demandent des questions sur la mission d'âme. Et souvent, les questions sont orientées sur qu'est-ce que je dois faire? Et c'est jamais la réponse d'une âme. Une âme, ce qui est le faire n'a pas d'importance. La manière dont l'expression, la mission d'âme va s'exprimer est pas importante. C'est-à-dire que prenons l'exemple de s'aimer. Qu'on ait un métier A, B, C ou déprime, on s'en fiche complètement. Apprendre à s'aimer va s'exprimer dans le contexte familial, dans le contexte personnel, dans le contexte professionnel, dans tout ce qui s'invite. Et du coup, souvent, quand on va en fait pouvoir connaître sa mission d'âme, c'est qu'on va se retourner sur le chemin déjà parcouru et qu'on va regarder c'est quoi le fil rouge, c'est quoi le point commun, c'est quoi ce qui, entre l'expérience A, B, C, D, etc., c'est quoi finalement ce qui a toujours été présent. Et pour reprendre Jean-Jacques Rêvecoeur, il disait que lui, par exemple, il sait que sa mission d'âme, c'est faire grandir en amour et en conscience les personnes. Mais il a été éditeur, il a fait des formations, il a fait des bandes dessinées, il a fait, etc. Il a fait plein de métiers. Mais sauf que ce qui était le point commun, c'était tout ça. J'espère que tu veux compléter, Sandrine?
Non, je te remercie infiniment des mots qui viennent d'être posés, parce que moi, j'accueille beaucoup de personnes qui se font beaucoup de mal, qui créent beaucoup de souffrance en ayant reçu d'autres thérapeutes ou de soi-même, en fait, en ayant créé des choses de toutes pièces qui sont généralement plutôt émanantes d'un ego spirituel et qui vont s'enfermer dans une pseudo-mission d'âme qui effectivement a une forme bien définie et qui vont rentrer dans quelque chose qui peut même être extrêmement violent parce que y a, oui, y a un enfermement dans il faut que. Et merci, mais tellement merci d'avoir précisé qu'en fait la forme n'a aucune espèce d'importance. Et ça, c'est vraiment ce que Anne, moi ou d'autres, on peut vivre. Les formes peuvent changer la vibration, la fréquence de l'âme, elle reste la même.
Et pour justement être plus précise, en fait, j'aime bien l'image que lui il utilise. Il parle d'un arbre et il dit que la mission d'arbre, c'est le tronc et qu'en fait, les branches, c'est la manière dont cette mission va se déployer et se manifester dans la matière.
C'est ça.
Mais je te rejoins complètement sur le fait que, effectivement, plus on connaît les âmes, toutes les deux, on a parlé aussi de pureté et de cette simplicité. C'est jamais grandiloquent. C'est jamais quelque chose qui va être compliqué ou lourd ou long. C'est souvent une mission d'âme, c'est souvent en quelques mots que c'est défini lorsque l'âme souhaite l'exprimer. Par contre, cette mission d'âme va se décliner sous plein de formes différentes. Et surtout, une mission d'âme ne va pas être accomplie en une seule vie. Pour reprendre ce merveilleux exemple d'apprendre à s'aimer, eh bien, si une âme souhaite faire l'expérience profondément de ça, bien sûr que ça se jouera sur plusieurs vies, dans des contextes profondément différents, pour faire le chemin du cœur et le chemin d'amour à soi-même. Et du coup, connaître vraiment, ça veut dire quoi, s'aimer soi-même? Une autre personne a dit, on parle de moi supérieur, est-ce notre âme? Non. Je vais essayer de partager. Ok, je vais voir si je peux partager une image pendant que je vous parle, parce que c'est une image où j'ai réussi enfin à créer à peu près ce que je vois parfois pour illustrer quelque chose. Alors, donnez-moi une seconde. En fait, comment dirais-je, quand on part du physique et de la forme incarnée, les deux pieds sur terre, et qu'on va monter vers, du coup, le spirituel, on va arriver sur l'âme. Et l'âme, on l'a dit, elle a une certaine consistance. On dit qu'il est dit plutôt, je ne sais pas si c'est vrai, que l'âme a un poids, qu'elle fait 21 grammes. En tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est qu'effectivement, quand une âme est dans les mains, elle a un poids léger, mais elle a un poids réel. On peut la toucher, on peut la sentir. Donc, en fait, l'âme, elle est à la fois dans le subtil, mais elle a une certaine consistance. Et puis, il y a quelque chose qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus vers la source, Dieu, le divin, mettez les mots qui vont avoir du sens pour vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur, c'est-à-dire c'est ce qu'on est en essence profondément. Ça a été le mot essence et soi supérieur dans le texte qui a été donné. Et en fait, c'est une masse d'informations absolument gigantesque. Seigneur, j'arrive pas à trouver l'image, bon, c'est pas grave. Qui est du coup, qui est là, qui n'a pas de matière, qui est vraiment pure conscience, pure information. Et en fait, c'est quelque chose d'une immensité incroyable, qui est vraiment quelque chose de 100% subtil. Et à ce niveau-là, on va pouvoir ressentir un petit peu quels ont été les choix de manifester l'amour sous quelle forme. C'est-à-dire que quand on peut se brancher sur un soi supérieur, sur l'essence d'une personne, comme un peu pour un plat, on peut goûter l'essence d'une personne. Il y a des personnes, on va goûter la joie. Il y a d'autres personnes, on va goûter la paix, ou la générosité, ou la compassion, ou la douceur, ou l'amour, ou la bienveillance. En fait, chaque soi supérieur a vraiment plusieurs saveurs, parce qu'il n'y en a pas qu'une. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment un peu unique, comme si chaque soi supérieur disait, je ne peux pas représenter à moi seul l'intégralité de ce qu'est le divin. Voilà, j'ai retrouvé l'image. Et donc, du coup, je choisis de plutôt faire l'expérience d'être cela, d'être la joie, d'être la paix, d'être ça. Alors, attendez, je vais essayer de vous partager
En
l'image.
attendant, Anne,
Oh, tu es fantastique!
j'en ai partagé une.
C'est formidable. Mais on va la garder, elle est trop bien, j'avais pas vu. Mais c'est tout à fait ça. Ah, j'adore. Eh bien, en fait, c'est ça. On voit tout en bas la forme incarnée qui est en fait reliée à une certaine masse d'informations qui est qu'on pourrait appeler l'âme, qui a une certaine consistance, qui est un peu entre ciel et terre, et qui est elle-même reliée plus haut à une masse d'informations absolument gigantesque, parce que chaque fois qu'il monte des soins supérieurs, c'est vraiment, vraiment très, très, très grand. Et puis, bien sûr, au-dessus, il y a la source, le tout, ce qui contient tout. Ah, j'adore cette image, merveilleux. Merci beaucoup pour le partage. Voilà. Est-ce que c'est OK? Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que, voilà, pour qu'on finisse pas trop trop tard non plus, est-ce que, voilà, il y a d'autres choses, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que ça serait OK pour ceux qui le souhaitent, qu'on puisse éventuellement se laisser guider dans une méditation qui serait reçue en direct? Qu'est-ce qui est juste pour vous?
Effectivement, dans les petites informations du départ que je n'ai pas données, c'est qu'il avait été reçu comme information que la soirée allait être un peu plus longue que les soirées habituelles, hein, qui généralement se terminent à 21h45, mais à double voix. Nous prenons la liberté de sortir du cadre pour déborder un peu. Donc évidemment, si des personnes sont fatiguées, n'hésitez pas à couper, à sortir. Vraiment, respectez-vous dans ce que vous êtes en capacité de recevoir aussi. Parce qu'au-delà de ce qu'on donne en termes de paroles et d'enseignements, nos présences sont agissantes. Et donc, les choses, évidemment, dans vos énergies sont en train d'être vécues. Voilà.
Alors, je veux bien, comme certains l'ont fait sur le chat, merci infiniment. Je vais nous dire OK. Voilà, par exemple, simplement pour ceux qui souhaitent rester un petit peu pour la méditation, qu'on puisse vérifier qu'il n'y ait pas de questions ou pas de points qui a besoin d'être précisés et qu'on puisse, merci beaucoup, ouvrir cet espace pour ceux, pour ceux qui le
Merci, non.
souhaiteront.
Voilà.
Merci beaucoup de vos réponses.
J'adore les petits pouces qui volent. Ok, merci beaucoup. Banzai, j'adore. Trop chouette. Oh, merci pour vos présences et vraiment
Les
tout ce
commentaires
qui,
adorables.
voilà, tout ce qui est partagé, chaque présence est nourrissante et merveilleuse,
Oui.
évidemment.
Et merci infiniment de vous respecter parce qu'effectivement, il commence à peu faire tard et ça peut ne pas être juste. Donc surtout, respectez-vous, écoutez-vous.
Ok, bon, ça s'invite déjà. Ça
Parfait. Oui, ça change.
change, voilà.
Ok, alors attends, je vais prendre le temps. Waouh. Ok, alors, pour ceux qui vont rester, parce qu'effectivement, peut-être que pour les personnes qui sont très sensibles, vous sentez que l'énergie et l'atmosphère changent complètement, complètement. Il y a quelque chose d'incroyablement harmonieux et j'allais dire de grand dans le sens, il y a beaucoup de monde qui arrive à plein de niveaux différents. Donc, ça veut dire ce que je vous propose, c'est vraiment pour ceux pour qui c'est juste de rester. Dans un instant, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien avoir une musique en fond parce que ça vient apporter quelque chose de supplémentaire. Ce que je vais vous proposer, c'est ceux qui me connaissent que savent, je dis beaucoup, beaucoup, s'il vous plaît, écoutez-vous, respectez-vous. Ouvrez les espaces en vous que vous sentirez juste d'ouvrir. Soyez profondément respectueux des espaces que vous souhaitez ouvrir ou pas. Et en l'occurrence, on avait eu cette intuition toutes les deux, Sandrine et moi, et effectivement, là, ça se confirme très fort. Pour certaines personnes qui le souhaitent et pour qui vont sentir que c'est juste, de manière assez collective, en tout cas, enfin, comment dirais-je, à la fois collectivement, mais que pour les âmes qui le souhaiteront, eh bien, il y a un soin sur l'âme qui va être fait en même temps que des mots vont être prononcés. Donc, ce que je vous invite déjà à faire maintenant, c'est vraiment de pouvoir, pour ceux qui restent, voilà, merci, merci beaucoup de vous respecter, c'est que vraiment vous puissiez prendre le temps de savoir sentir, même si je vous reposerai la question tout à l'heure, de savoir sentir si c'est juste ou pas pour vous de souhaiter pouvoir recevoir ce soin. Soyez vraiment extrêmement à l'écoute de ce que ça va dire à l'intérieur. Vous avez un libre arbitre qui demande à être respecté profondément. OK.
y a tout un collectif de lumière qui s'est invité pour notre collectif terrestre.
Alors, si c'est juste pour moi, je prends le temps de m'installer confortablement dans une posture qui est agréable pour moi, où je me sens bien. Et si cela m'agrée, je peux fermer les yeux ou les laisser ouverts. Je prends le temps de poser l'intention, de tourner davantage le regard vers l'intérieur de moi. Et comme me poser à l'intérieur de moi, cela peut être de poser ma conscience dans mon cœur. Peut-être même plus profondément en moi, dans un espace où tout est calme, tout est silence. Et je prends le temps de m'accompagner de me ressentir et je vais prendre un instant pour me poser la question. Est-ce qu'il est juste pour moi, à cet instant, de souhaiter me relier davantage à mon âme, de souhaiter davantage sa guidance, de poser l'intention, de m'aligner à mon âme davantage encore? Et je prends le temps d'écouter ce que me dit mon intuition, mon cœur. Si la réponse est non, peut-être que ce n'est pas le moment ou que je ne le souhaite pas, je prendrai un moment pour prendre soin de moi à l'intérieur de moi, à faire grandir l'amour en moi, pour moi, mettant un peu de côté les mots qui seront prononcés. Si la réponse est oui, je vais demander de tout mon cœur, depuis mon cœur, à me connecter, à me relier davantage à mon âme, à m'aligner davantage à mon âme. Et j'invite toutes les sensations, toutes les perceptions, tout ce que je vis j'ouvre mes espaces d'accueil en moi dans ce que je sens juste d'accueillir et d'ouvrir. Et peut-être que je vais vivre et ressentir comme de l'énergie, une présence qui descend, qui s'invite en moi. Alors, si jamais je vis cela, j'accueille. Je laisse les choses se faire. Je goûte cette présence et ce qui s'invite. Je respire. J'accueille. J'ouvre. Et si je le souhaite, je peux demander à mon âme de m'accompagner, particulièrement dans les jours qui viennent, de me faire des signes, de m'envoyer des messages, ou peut-être dès maintenant, de me transmettre une intuition ou toute autre chose. Même sous forme vibratoire, dans ce qu'il est juste pour moi d'accueillir aujourd'hui. Et puis je vais m'adresser à mon âme. Poser l'intention de m'adresser à mon âme et je vais simplement laisser venir ce qui vient et je vais demander à mon âme, est-ce qu'il est juste pour toi aujourd'hui, maintenant, de recevoir un soin? Est-ce que tu souhaites, non pas moi, est-ce que toi, mon âme, tu souhaites recevoir un soin ce soir. Si la réponse est non, je respecte cela et je goûte toute la saveur, tout ce que mon âme m'apporte et me transmet. Je peux ressentir son amour pour moi. Si la réponse est oui, je laisse les choses se faire et j'accueille en moi toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les perceptions qui s'invitent. Thank you. je m'ouvre davantage à l'amour. J'accueille davantage encore ma lumière. Je reçois la tendresse. D'être qu'à ma manière unique, je peux ressentir ou percevoir toute la délicatesse, la splendeur, la pureté, la lumière de mon âme. Et choisir de rayonner davantage encore sa lumière. Je peux laisser aller un passé qui m'encombre et inviter tout ce que je suis profondément en essence à être là, dans mon corps, dans ma forme, dans ma vie. Je me sens davantage reliée à mon âme. Et si je le souhaite, je peux également poser mes mains sur mon cœur et me remercier. Me remercier profondément d'exister. Me remercier d'être qui je suis en vérité. Me remercier pour toutes les fois où j'accueille en moi davantage encore mon âme. Et je lui permets de se manifester dans une forme incarnée et de rayonner sa lumière tout autour d'elle, dans le monde, sur les autres, dans l'univers. Et je prends le temps de m'accepter moi, dans la forme que mon âme habite, Je prends le temps de réaliser que plus j'éprouve de la tendresse pour cette forme, peut-être même de l'amour pour cette forme qui me permet de créer et de me manifester en tant qu'âme. Plus je fais cela, plus je rayonne ce que je suis en vérité. Alors, si je le souhaite, je peux toucher mes bras ou mon torse ou mes jambes ou toute autre partie de mon corps pour venir honorer mon corps, honorer cette forme créée, issue de la source. Qui me permet d'apprendre, de progresser, d'évoluer en tant qu'âme. Sans cette forme, je ne pourrais pas apprendre. J'accueille mon corps. J'honore mon corps. Je le remercie d'exister. Et je me rappelle que l'harmonie est l'harmonie entre mon corps et mon essence, entre ce que je suis en vérité et cette forme incarnée. Alors, si je le souhaite, je peux poser l'intention d'être aidé ou accompagné à l'instant pour pouvoir inviter davantage encore d'harmonie entre mon âme, ce que je suis en vérité, et cette forme physique incarnée dans laquelle je suis sur cette terre, pour vivre l'harmonie en moi. Et je m'accueille dans cette union. De l'essence et de la matière.